Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Probable levée de l'état de siège dans les prochains jours. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé la semaine dernière avec une délégation du caucus de parlementaires du Nord-Kivu et de l'Ituri. Selon le député national qui a participé à cet échange, Crispin Bindoulé, élu de Butembo, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la table ronde à venir sur l'évaluation de l'état de siège dans ces deux parties du pays. Faut-il nommer des commissaires généraux, comme le pensent certains parmi vous, à la tête de ces provinces, ou revenir au gouvernement provincial d'avant l'état de siège? Votre réaction dans cette émission qui reçoit pour vous honorable député Josué Mufula, élu de Goma. Honorable, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Après 20 ans dans ces studios, heureux sommes-nous de vous retrouver dans le même studio et pratiquement dans une autre casquette.
Pas plus que moi.
Il y a 20 ans, vous étiez encore Kadogo, vous avez écrit un livre sur la marche, sur les œufs, si je me rappelle encore très bien, où vous décrivez votre parcours de l'Est jusqu'à Kinshasa. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau.
Je suis plus que heureux, en tout cas.
Voilà, on vous retrouve dans un instant. Question d'abord de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous organisons cette émission pour eux, pour tous, et vous êtes plus de 3443 à avoir lu ce sujet, et merci de l'intérêt, surtout pour vous qui l'avez partagé avec d'autres compatriotes. Polydor Basunga et Viviane Mounier-Incana concourent à la production de cette émission coordonnée présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Merci de nous accorder votre attention.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons en ligne plusieurs auditeurs qui attendent déjà d'intervenir, mais d'entrée des jeux, nous allons planter des décors avec notre invité Josué Mufula que je venais de présenter. Alors, vous êtes député élu des Goma. À un certain moment, vous avez été d'ailleurs menacé, vous avez fait même l'objet d'une arrestation à Goma. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que vous n'étiez pas complice dans cette affaire?
Pas
c'était des
tout,
accusations gratuites.
Vous savez, dans ce pays, nous, en tant que jeunes, on a toujours aspiré à un changement. Et personnellement, j'ai pensé que la politique était si facile que ça, parce que pour moi, la littérature, l'écriture, c'est vraiment une passion. Mais je dirais que la politique, pour moi, c'est une vocation. Alors, je sers mon pays sous les drapeaux, déjà à l'âge de presque 12 ans. J'embrasse les forces combattantes de l'AFDEL, je participe à la libération du pays. Et quelques années plus tard, je suis démobilisé, je regagne le banc de l'école, au collège Saint-Georges ici à Kitambo. Et à ce moment-là, je rencontre un tonton qui m'a choyé, qui s'appelait J.R. Lungembo à la RTNC. Et puis bon, par la suite, et d'autres comme Madame Nicole Ngaka,
que nous saluons d'ailleurs en passant depuis les États-Unis,
pour moi, après mes études à Lubumbashi en philosophie politique, je rentre sur Kinshasa, j'entreprends le troisième cycle, je finis mon DA et maintenant là, je prépare ma thèse de doctorat à l'UNIKIN avec le professeur Ngoma Binda, en philosophie politique toujours. Donc, je postule comme candidat député à Goma, d'où je suis parti, comme Kadogo. Pour la première fois en 2011, j'échoue, je n'ai pas baissé les bras, je continue à me battre. Et en 2018, en 2019, je suis élu député national. Et du coup, je suis membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Au sein de notre commission défense et sécurité, nous avions déjà plusieurs fois organisé des auditions de ministres sectoriels par rapport à la défense et à la sécurité. Mmh. Et nous avions fait des évaluations par rapport à l'état des sièges. Et donc, il y a des recommandations qui étaient assorties et qui étaient votées à l'unanimité au sein de la plénière de l'Assemblée nationale, la Chambre basse. Et donc, je me retrouve en vacances parlementaires, Je participe à un collectif de day organisé par des mouvements citoyens par rapport à 6 jeunes hommes qui étaient abattus tantôt par les forces de l'ordre, tantôt par des bandits ou kidnappés. Et du coup, je suis avec Patrick Mouyaya au festival à Mani, avec la ministre de la Culture, le seul député qui était dans la délégation officielle. Et après, je sollicite d'abord l'audience auprès du gouverneur, demander s'ils pouvaient recevoir toutes ces familles éplorées, leur présenter des condoléances et les rassurer qu'il allait s'impliquer personnellement dans les enquêtes pour que l'on sache comment ces 6 jeunes hommes de entre 20 à 30 ans ont été tués comme ça, fauchés. Et il me pointe le doigt dans les yeux, il me dit « Honorable, ce n'est pas à vous de me rappeler que je dois faire mon travail. À ma place, est-ce que tu ferais ce que je fais ?» Bon, il m'a menacé en tout cas dans son bureau et du coup j'ai claqué la porte, je suis parti. Et voilà ce qu'on va appeler outrage à l'autorité, parce que il a refusé de recevoir ses familles. Je lui ai dit, j'ai donné ma petite contribution à toutes ces familles.
La population que vous défendez en tant que député,
voilà,
parce que vous êtes élu pour eux.
Et puis bon, il m'a dit clairement dans son bureau que il suit mes interventions. Je critiquais l'état de siège. Eh bien, quand on m'arrête à Goma, on refuse que je prenne mon avion pour rentrer à Kinshasa. Du coup, procès en flagrance, de l'aéroport de Goma directement à l'auditorat militaire. Et là, la messe était déjà dite, comme disait quelqu'un, Vital Kamerhe, pour ne pas les citer. Et du coup, il y a 3 griefs. On me reproche de critiquer la taxe Eram parce que j'ai encore de marques sur mon corps de bataille. On s'est donné des coups même à l'Assemblée nationale à cause de cette taxe, fameuse taxe Eram, une escroquerie de l'épargne du peuple congolais. Donc on me reproche de critiquer la taxe Eram. Je pense qu'il voulait juste plaire au chef de l'État et maquiller un peu cette arrestation là, alors que justement on m'arrêtait parce que je défendais la cause de surtout le motard à qui on exigeait des gilets, l'achat de gilets à $15 chacun, et puis aussi bien entendu les taxis qu'on voulait qu'ils soient peints en jaune, et les critiques de l'état de siège. On va m'attribuer aussi des tracts bye bye état de siège, bye bye RAM, alors que c'était des mouvements citoyens.
Voilà, vous êtes disons député national élu des Goma, vous avez été parmi les premiers à dire que non, l'état de siège il faut réqualifier, il faut revoir, il faut repenser.
Absolument.
Vous avez été le premier, mais la semaine dernière vous avez été reçu par les chefs de l'État dans un échange fraternel, dans un échange patriotique, et il a été préparé la table ronde à venir pour voir, dans la mesure du possible, soit lever l'état des sièges ou le maintenir. Mais d'aucuns disent, si on maintient l'état des sièges, c'est-à-dire on va consolider son échec. Et si on la lève, on lève l'état des sièges, c'est-à-dire on consacre encore son échec davantage. Alors, que pensez-vous de tout ça?
Il faut souligner que c'est la deuxième rencontre. Au mois de mai, encore une fois, après une mission d'évaluation Assemblée nationale gouvernement, ça veut dire la commission défense et sécurité, notre commission, et le Premier ministre, nous nous étions encore rendus dans les 2 provinces sous état de siège, Ituri et Nord Kivu. Et après cela, au retour, nous avions été reçus par le chef de l'État, où le Premier ministre a présenté son rapport, ainsi que, au fait, la Commission défense et sécurité, mais également les caucus de 2 provinces, les élus nationaux de 2 provinces, ont eu aussi à donner leur point de vue. Et en ce moment-là, en ce temps-là, au mois de mai, donc, le chef de l'État avait promis la tenue de cette table ronde. Et
au mois de mai déjà.
Au mois de mai déjà.
Donc ça fait juin, juillet, août, septembre.
Et il nous avait rassuré qu'avant de partir en vacances parlementaires le 15 juin, donc Déjà, on devait tenir, organiser cette table ronde en vue de lever une option entre les deux, parce que notre commission défense et sécurité a suggéré la requalification de cet état de siège, c'est-à-dire que les autorités militaires aillent se consacrer aux opérations militaires et que l'on laisse le gouverneur civil reprendre ses fonctions et s'occuper de l'administration et de la politique. Et donc, mais du côté, disons, du côté des caucus, en tout cas, nous, à l'unanimité, tous les élus du Nord Kivu et de l'Ituri, nous avions proposé la levée pure et simple de l'état des
sièges. Alors, quand on va lever, disons, quand on procédera à la levée de l'état des sièges, maintenant, quel est le narratif? Quel est le paradigme? Faut-il maintenir les gouverneurs, le gouvernement provincial d'avant l'état des sièges, ou carrément nommer les commissaires généraux, comme les pensent certaines des personnes, en début de la décentralisation, du découpage, pour permettre d'impulser l'action de restauration de la paix?
Bon, déjà, je ne voudrais pas placer la charrie avant le bœuf. Je ne voudrais pas anticiper ici, je ne suis pas dans le secret du roi, mais il faut dire que cette table ronde que nous pensions une poudre de perlipimpin et qui vient encore une fois de nous être promise, en tout cas pour le mois de novembre. Novembre,
on vous a promis pour le mois de novembre, mais c'est bientôt dans 2 semaines.
C'est bientôt, et donc voilà, je peux encore une fois accorder à ma foi aux promesses du chef de l'État, et j'espère qu'elle sera bien tenue. Et donc, c'est cette table ronde.
Et si jamais on vous demandait au niveau de l'Assemblée nationale de prolonger l'état des sièges avant dans les 14 jours.
Mais
ils
ont prorogé encore il y a quelques jours. Moi, je suis pas entré dans cette plénière là. Donc voilà, je reste homme de principe. Donc voilà, c'est cette table ronde là qui devra bien entendu être un cadre de réflexion profonde pour.
Mais quel sera son cadre juridique à cette table ronde? Est-ce que sa décision sera imposable à tous? Et, bon, je ne sais pas.
On a dit que ça sera donc elle va réunir bien entendu la commission défense, le gouvernement, donc tout le ministre tutelaire et leurs experts, mais aussi on va associer la société civile.
Dans sous forme d'une table ronde interinstitutionnelle.
Voilà, donc on va associer la société civile. Et donc, déjà, je crois que c'est de ces réflexions profondes-là sortira une option à lever. Soit c'est la requalification, ou soit c'est la levée pure et simple. Mais, M. Gier, moi je crois que déjà, à ce niveau-là de réflexion, il faudra que nous puissions avoir, nous déterminer par rapport à un plan de sortie de l'état de siège. Oui. Après l'état de siège, si et seulement si on arrivait à lever l'état de siège, et qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je pense que...
Voilà, au cours de cette émission, peut-être les auditeurs pourraient proposer quelque chose et on va échanger avec vous pour voir comment on peut mixer avec vos propositions. Mais entre-temps, nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous débattons sur cette table ronde à venir sur l'état des sièges, l'évaluation de l'état des sièges. Faut-il le lever ou encore le garder? Mais d'aucuns disent que si on lève, on confirmera qu'il a échoué. Si on le maintient, il continuera lui-même à consolider son échec. Alors, qu'en dites-vous? 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Vous êtes professionnel des médias? Vous travaillez en RDC? Ceci vous concerne. Les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a lancé le concours Prix Henriette Eke qui récompense les meilleures productions journalistiques liées aux questions de population. Ce concours, placé sous le parrainage du ministère de la Communication et des Médias, s'adresse à tous les journalistes de la télévision, de la radio, de la presse écrite et de la presse en ligne. Ayant traité un sujet sur le thème, éliminer les décès maternels évitables en RDC. Les reportages, les enquêtes ou autres productions doivent intéresser les communautés locales et s'efforcer à donner un visage humain aux efforts du pays et de ses partenaires dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle. Pour postuler, c'est simple. Allez sur les pages Facebook ou Twitter de UNFPA RDC, cliquez sur le lien à côté de l'annonce du concours et suivez les instructions. Le concours va du 10 juin au 15 novembre 2022. Bonne chance à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui reçoit Josué Mofula, honorable député élu des Goma. Peter Mabidi, vous êtes à Kinshasa, vous voulez intervenir. Bonjour Peter.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à notre invité, l'honorable José Mofula, que je salue en passant.
Bonjour,
et je salue
Monsieur
tous les
auditeurs
de la Radio Capi.
Vous avez la parole, quelle est votre réaction?
Merci Monsieur Gilles pour m'avoir associé à ce débat. Je pense que l'état de siège étant une mesure exceptionnelle, constitutionnellement reconnue, depuis l'instauration de cet état de siège, Monsieur Gilles, il y a des points négatifs et également aussi des points positifs.
Oui, ben on le sait déjà, Peter. Nous sommes en phase maintenant de réqualification de cet état de siège, parce que nous avons fait plusieurs émissions sur cette question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on lève l'état de siège, est-ce que cela va confirmer qu'il a échoué, ou si on le maintient, il continuera lui-même à consolider son échec?
Non, Monsieur JR. Donc, la décision qui a été prise, c'est une décision stratégique. Mais là, portant la mise en place de l'état de siège dans une partie de la République, Monsieur Jouyer, n'est pas un problème. Mais le problème majeur, c'est par rapport aux effets de l'état de siège. Mais la lever ou la maintenir, ça relève de du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui-même qui avait pris cette décision qui était stratégique. Mais néanmoins, Monsieur Jouyer,
donc si c'est le chef de l'État qui peut en décider, pourquoi alors organiser une table ronde? Il serait mieux que, de la même manière qu'il a pu imposer, instaurer l'état de siège, qu'il puisse prendre, après avoir écouté les uns les autres, même les émissions qui sont diffusées à longueur des journées sur différentes plateformes de communication, de pouvoir, statuer en âme et conscience.
Oui, mais c'est juste, la décision stratégique peut être transformée en une décision opérationnelle, c'est-à-dire une décision qui sera prise de manière concertée. Le table ronde dont les chefs de l'État envisagent, c'est par rapport, c'est pour arriver à prendre une décision concertée, c'est-à-dire entre la population, les élus et lui-même en tant que chef après évaluation de la décision stratégique. Mais néanmoins, la levée de cet état de siège, M. Jouyer, pourra engendrer certainement certains effets par rapport à la gouvernance des provinces en question. Mais moi, j'aurais émis le vœu qu'à la levée de cette mesure, que l'administration revienne aux civils. Les gouverneurs et les gouvernements provinciaux qui existaient, M. Jouyer, sont en chômage depuis une année et demie, depuis que l'état de siège a été décrété. Alors, si on pensait arriver à mettre les commissaires généraux, ça c'est violer la Constitution, parce que notre Constitution ne permet pas aux provinces d'être gérées par des commissaires généraux, M. Jouyer. Si ce n'est que les gouverneurs qui sont des autorités compétentes.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Alors, on vous prend. Maître Edmond, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Pierre, bonjour à l'honorable Josué Mofula et à tous les autres.
Alors Maître Edmond, le chef de l'État a-t-il le pouvoir par parallélisme des formes, parce que c'est lui-même qui avait signé l'instauration de l'état des sièges, de l'élever comme lui-même il l'avait instauré?
Oui, bon, d'abord sur le plan de droit, je pense que vous l'avez bien dit, c'est les principes du parallélisme des formes. L'état de siège a été institué par une ordonnance présidentielle et le chef de l'État constate qu'il n'y a plus de cause, il n'y a plus de cause qui justifie le maintien de l'état de siège. Je pense qu'il a tous les droits pour pouvoir le lever. Mais ici, je pense que si le chef de l'État a réuni les politiciens de ces deux provinces, ça se justifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, si vous constatez bien que l'état de siège n'a pas produit des résultats escomptés, c'est parce que il n'y a pas une volonté commune et concertée des politiciens des provinces. Et vous aviez suivi très bien qu'on acquise les députés, sénateurs, les politiciens des Litouré du Nord qui voulaient être complices majeurs des groupes armés et des rebelles. Et voilà pourquoi le chef de l'État, dans cette vision, dans cette lancée-là, il a toujours il envisage toujours associer le décidé de ces provinces afin de pouvoir analyser sur une certaine réqualification. Mais moi, je pense que cette question de qualification, bien sûr, l'état de siège a produit quelques résultats, on ne peut pas l'ignorer, mais est-ce qu'il faut nommer les commissaires spéciaux pour faire quoi? Parce qu'on ne va pas gober, copier ou recopier ce qui a été fait en 2016. À cette époque-là, les gouverneurs étaient hors mandat. Je pense que le président Kabila qui avait nommé les commissaires spéciaux, c'est avec quelques justifications juridiques. Mais aujourd'hui, par exemple, les gouvernements qui ont été élus, leur mandat continue à courir. Et c'était un moment spécial, un temps exceptionnel. Aujourd'hui, si le chef de l'État met fin à l'état de siège, je pense qu'il est de bon droit que le gouverneur qui ont été élus et dont les mandats continuent à courir soient remis dans leurs fonctions. Mais moi, je propose qu'en mettant ça à l'état de siège, on puisse instaurer toujours...
Oui, oui, maître Edmond, juste une question de curiosité. Est-ce que l'instauration de l'état de siège avait un effet suspensif définitif ou un effet suspensif du pouvoir civil temporaire?
Oui, monsieur Gilles, je pense que l'état de siège, les effets de l'état de siège sont en train de courir au moment que l'état de siège est en cours.
Oui, après, ça n'a plus d'effet.
Oui, ça n'a plus d'effet. Logiquement, aujourd'hui, lorsqu'on lève l'état de siège, ça ne peut plus produire les effets et les gouvernements qui ont été élus doivent être replacés dans leur fonction. Ce n'est pas question de pouvoir nommer les commissaires spéciaux, ça ne justifie pas.
Merci beaucoup, maître Edmond. On va prendre Amos qui est à Bukavu. Amos, bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonjour à l'invité que je salue en passant. Et je lui prie de continuer toujours sur la même lancée par rapport à son combat pour les bien-être de la population.
Vous avez la parole. Quelle est votre réaction, Amos, après avoir suivi même vos prédécesseurs, lorsque Edmond accepte que par parallélisme des formes, le chef de l'État peut lever ou encore continuer à maintenir l'état des sièges. Mais dans le cas de figure où on lève l'état des sièges, quel sera pour vous le plan de sortie?
Merci bien. En fait, savoir dire la vérité reste le début du changement. Vous savez que par rapport à cet état des sièges, beaucoup de gens, tout en reconnaissant l'échec de cet état de siège, ils ne veulent pas dire la vérité au chef de l'État. Au moment où sur le terrain, la situation est catastrophique. Voilà pourquoi moi je pense que lever cet état de siège est une urgence et une priorité à l'heure où je vous parle.
Donc vous pensez que c'est une urgence?
Oui, une urgence.
Mais entre-temps, la table est ronde et prévue pour le mois de novembre. Peut-être la première quinzaine. Bon, encore faut-il que les acteurs principaux n'aient pas d'autres agendas.
Tout à fait.
Ou peut-être bon, qu'ils ne soient pas au pays.
Tout le monde peut tomber dans l'erreur, mais demeurer dans l'erreur, ce qui mériterait même la pendaison. Moi, je pense que le chef de l'État,
ça c'est trop fort quand même.
Comprendre qu'autour de lui, il y a des flatteurs. Mais lui, en tant que garant de la nation, il devait se dire, c'est moi qui ai mis en place cet état de siège, mais il y a des échecs. Et voilà pourquoi je dois l'élever. Je ne suis pas d'accord qu'on nomme des commissaires généraux. Notre condition est claire. Qu'on laisse le gouvernement provincial, les gouverneurs qui ont été élus par les députés provinciaux, de continuer à gérer la
province. Mais il ne reste qu'une année pour eux. Vous pensez qu'ils doivent revenir aux affaires pour gérer la province que pour une année?
Tout à fait, oui. Parce que les commissaires là qui ont été nommés, on a cru qu'il devait apporter la solution à la question de l'insécurité. Mais dernièrement, j'avais dit que certains parmi eux qui sont arrivés, ils sont devenus des opérateurs économiques. Certains parmi eux ont commencé à exploiter des minerais au détriment de la mission leur confiée. Voilà pourquoi moi je pense que le chef de l'État, si réellement il a l'ambition de ramener la paix dans ces deux provinces, il doit dans l'extrême urgence lever cet état de siège qui a totalement échoué. Et ne pas continuer à écouter le flatteur autour de lui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Amos, on ne saura pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent intervenir dans cette émission, dans cet échange citoyen sur la fréquence de la paix. On va écouter un auditeur et puis on reviendra à notre invité pour certains éclairages. Bienvenue, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, Gilles, bonjour à l'invité.
Alors, quelle est votre position?
Oui, je crois aujourd'hui, l'état des sièges, toute la population qui habite les deux provinces sous l'état des sièges ne demande qu'une seule chose, la levée de l'état des sièges. Si le président de la République a pensé qu'il fallait convoquer un atelier pour qu'on en discute, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, quant à la question que vous posez, est-ce qu'après la levée de l'état des sièges, il fallait revenir aux anciens gouverneurs ou nommer les commissaires spéciaux? Je crois envisager de nommer les commissaires spéciaux, c'est peut-être aussi violer la Constitution, parce que dans notre Constitution, nulle part on parle des commissaires spéciaux. Ces gouverneurs-là ont bénéficié de la confiance des élus provinciaux qui diraient sont l'émanation du peuple. Mm-hmm. Nommer les commissaires spéciaux.
Ce sera purement, simplement, purement et simplement violer la constitution. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci, bienvenue, pardon, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, je suis très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre émission.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables dans ce pays n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Vous êtes bel et bien sur Radio Okapi qui vous propose ces débats sur Parole aux auditeurs et qui entame sa deuxième demi-heure d'émission avec comme invité Josué Mofula, élu de Goma. Nous parlons de la prochaine requalification de l'état de siège. Quel sera le plan des sorties? Faut-il vraiment lever ou encore garder? Si on enlève, on confirmera qu'il a échoué. Si on les maintient, il continuera lui-même à consolider son échec, pensent certains parmi vous. Alors, nous venons d'écouter les uns les autres. Monsieur le député, quelle est votre réaction?
Oui, monsieur Gier, il faut avouer que je suis très ému de constater que nos auditeurs, tous les citoyens congolais, en tout cas, s'intéresse vraiment de la situation, de l'évolution de la situation du pays, partout, dans tous les secteurs. Mais je remercie aussi parole aux auditeurs pour cette formation civique, parce que c'est cette conscience collective qui nous manque depuis longtemps dans notre pays. Alors, toutes les interventions ont été très très pertinentes, en tout cas. C'est Peter Mabuidi de Kinshasa. Il a bien dit qu'il y a deux points négatifs et positifs de l'état de siège, mais je vais revenir au propos de Maître Edmond, qui a évoqué bien entendu le parallélisme de forme. C'est vrai que c'est le chef de l'État qui avait décidé, qui avait pris l'acte de mettre sur place l'état de siège. Mais il faut dire que c'était sous après une proposition de caucus des élus du Nord Kivu, mais aussi surtout ceux du Grand Nord.
Mais il faut souligner qu'en ce temps, c'était critiqué. Il a fallu que les députés statuent sur la question pour demander au chef de l'État.
Monsieur Gier, je pense que il faut se mettre à la place des élus nationaux, surtout du Grand Nord, qui voient du jour au jour leur mère, leur sœur violée, les enfants kidnappés, assassinés. Et donc, moi, je crois qu'ils en avaient ras-le-bol. Et on a insisté, on a proposé une mesure exceptionnelle. Et c'est cet état de siège qui a été instauré par le chef de l'État. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a eu d'autres rumeurs qui ont circulé et je vais vous faire une sorte de restitution par rapport à, bien que, en fait, je vais tenir compte des secrets défense, mais il y a par exemple cette histoire de rumeurs d'Orléans, si je peux le dire ainsi, sur la possibilité d'écarter les deux provinces sous état de siège aux élections de 2023. Eh ben, devant cette question, le chef de l'État l'a balayé et il a affirmé, en tout cas, que avec ou sans état de siège, les deux provinces devront participer aux élections. La deuxième des choses, par rapport à la nomination de commissaires spéciaux, il a encore une fois balayé cette rumeur-là en disant que lui il ne pourrait pas à marcher sur la Constitution et mettre en place, remplacer des autorités qui ont été élues par les assemblées provinciales. Donc je crois que c'est quand même correct de sa part, de cette façon-là. Bon, mais la question aussi demeure celle de savoir, est-ce qu'il y a encore un soubassement juridique pour maintenir cet état de siège-là? Par télégramme, le chef d'état-major sortant, Mbala, il avait déchu le gouverneur militaire de l'aspect des opérations dans ses fonctions. Et il est resté donc assumé les responsabilités administratives et politiques. Et voilà que même le commandant zone qui a été rappelé à Kinshasa, arrêté suite à une... bon, il y a encore présomption. Une rumeur qui l'accusait de complicité avec le pays agresseur. Et donc, en fait, mais il faut quand même souligner, Monsieur JR, plusieurs fois, nous avons toujours dénoncé, même au sein de la Commission Défense et Sécurité, l'affairisme militaire. Je crois qu'il y a
Amos qui
est revenu sur
ça. Plusieurs fois, quand nous faisons des émissions, il revient sur ça.
Mais on ne voulait pas nous croire, et finalement, en fait, il y a... On m'a accusé aussi de critiquer tout le temps les autorités.
On accuse les députés et les sénateurs, certains d'être complices. Non. Les sénateurs et les députés accusent les gouverneurs militaires d'être des affairistes. Les gouverneurs militaires accusent certains politiciens d'être des mèches avec... Il y a un fourre-tout, on ne sait pas. Qui dit vrai, qui est vrai, quoi, en fait.
Monsieur JR, je ne me ferai pas ici l'avocat du diable. J'ai toujours demandé. Nous avons toujours peut-être les autres ne sauraient pas le demander parce que tous peut-être sont de l'union sacrée. Et c'est cela la difficulté que nous avons même au sein de notre province. Nous sommes la deuxième province en termes de nombre, le caucus des élus. Le Nord Kivu après Kinshasa qui aurait je crois 58 ou 52 députés. Le Nord Kivu en a 48 je crois. Et vous imaginez sur les 48 presque 45 sont allés à l'Union Sacrée. Nous restons presque 5 qui ne sont pas. Et nous, donc, nous avons encore cette liberté de réfléchir et de proposer ce que nous voulons, même devant le chef de l'État, plutôt que d'aller le flatter. Quelqu'un a parlé de flatterie, je crois
c'est
que ça doit
Amos.
Être... Alors... On arrive dans la réunion à la cité de l'OIA, mais bon, c'est tout le monde qui... Excellence, nous allons vous accorder le deuxième mandat et tout ça, il faut... Mais je pense que cette table ronde-là, il faudrait pas que ça soit un cadre où les gens vont encore aller faire des adulations cauteleuses, flatter à outrance le chef de l'État pour attirer son attention sur soi.
Parce que maintenant, c'est l'affaire d'État. Il faudrait quand même que des hommes politiques que vous êtes, vous puissiez vous assumer pour réellement arriver à restaurer la paix.
Mais M. Gilles, je dois revenir sur cette question-là de l'accusation sentencieuse du président Mbosso souvent quand il dit que les députés doivent...
Il n'y a pas que lui, il y a Bahati qui a dénoncé, il y a même la population qui...
J'ai été victime d'arrestation pour mes critiques de la taxe RAM et je me suis même battu au Parlement. On s'est donné de coups à cause de cette histoire-là qui énervait parce que ce n'était pas normal que l'on maintienne cette escroquerie comme ça. Et bien voilà, donc... Et on m'a arrêté parce que...
Dans votre école maintenant, cette complicité...
J'allais être peut-être le premier à être, à part d'autres députés provinciaux que j'avais trouvés dans le cachot. Mais bon, quelques temps après, on m'a sorti du cachot collectif, ce qu'on appelait les cachots IUS. Il y a deux cachots à l'auditorat militaire, il y a Zahir. Et Youssi Zahir n'a même pas de fenêtre. Et donc, les gens meurent chaque jour là-bas et on doit aller jeter des corps je ne sais où.
Alors, si vous le permettez, monsieur le député, on va écouter quand même un auditeur qui a du mal à nous appeler et qui a laissé le message sur notre voice. On va l'écouter. Voilà, c'est Franck.
Bonjour à l'invité au studio. Bonjour aux amis qui vont interagir. Par rapport à ce que je viens de suivre jusque-là, je crois que la situation est en soi déjà délicate parce que après autant de fois que cet état de siège a été prolongé et du moment où nous nous rendons compte que les résultats escomptés n'est pas encore au rendez-vous, et à une évaluation qui doit s'imposer en vue de requalifier. Bon, quant à dire si on doit évaluer qu'on s'est rendu compte que c'est un échec, mais je crois que nous sommes en face des dilemmes. On avait pris cette option, pour imposer le retour de la paix vers la partie orientale de notre pays. Mais après autant de fois, nous nous rendons compte que ça ne marche pas. Donc, quand on se rend compte que ça ne marche pas, il faut peut-être s'arrêter et chercher à bien faire les diagnostics afin de trouver des vraies pistes de solutions ou bien de suggérer des vraies pistes, de trouver de vrais remèdes par rapport à cette situation-là. Et ce qui fait déjà mal, c'est le fait que il y a des options qui doivent être prises avant de le mettre en place, avant de les prendre. Il faut peser les pour et les contre. Mais quand on se prononce déjà sans avoir pesé les pour et les contre, et après on se rend compte que ça n'a pas marché.
Voilà, ça c'est Franck de Vienne qui nous a envoyé son message sur notre boîte vocale. Merci de l'intérêt. Et vous, partout où vous êtes, hein, si vous estimez que vous pouvez également, disons, nous laisser votre voice, n'hésitez pas, laissez-les sur notre WhatsApp, le 081 29 49 330. Voilà. Alors, monsieur député, vous pouvez poursuivre votre... Après avoir écouté d'ailleurs le message.
Ouais, je veux revenir...
Donc, évaluer les pour et les contre.
Sur l'aspect de l'affairisme militaire, c'est important, monsieur JR. Lorsqu'on nous a présenté le rapport, le gouverneur militaire, lors de l'évaluation avec le premier ministre à Goma, il y a quelques semaines, et encore une fois, c'était un exposé magistral. Il fait son exposé, mais il s'est apesanti beaucoup plus sur l'accroissement des recettes. Nous comprenons qu'il assume maintenant les fonctions administratives et politiques, de l'autorité administrative et politique, mais est-ce que c'est ça la mission, c'était ça la mission de l'état, de l'instauration de l'état de siège? Donc, je pense que cet affairisme-là se confirme de plus en plus, et au jour d'aujourd'hui, on vous parle de plaques parcellaires, par exemple, décidées par le maire de la ville, le colonel, je crois, François Kabea. Vous vous réveillez le matin sur votre parcelle, on a changé la plaque parcellaire, et le lendemain, c'est le relèvement, on vient demander $15 à chaque parcelle. Et même les avenirs changent, et je me demande sur le plan foncier, est-ce qu'il n'y aura pas de conflits fonciers dans les jours à venir?
Donc pendant l'état des sièges, il y a eu des tracasseries qui se sont multipliées.
Il y a deux bouclages. Le lundi passé, 11 octobre, il y a même eu un jeune homme sur qui un policier a tiré à bout portant parce que, justement, on exigeait le paiement d'une kyrielline avalanche de taxes sur le véhicule et tout ça. Et les jeunes hommes qui voulaient s'échapper vers la route après l'ancien Unigom. Il veut aller vers le port. Le policier
vers ancien Pilipili.
Voilà, monte sur Signes. La moto et poursuit le jeune homme de 23 ans. Le policier monte et poursuit le jeune homme et il va l'abattre à bout portant. À cause de taxes, vous imaginez ça, la discipline militaire dans un
état. Donc vous auriez souhaité que, pendant l'état des sièges, qu'il y ait une situation exceptionnelle, qu'il y ait aussi allègement des conditions, absolument, des vies de la population.
Je ne suis pas économiste, mais il y a ce qu'on appelle l'usage fiscal. Hein, on pouvait quand même exiger graduellement le paiement de ces taxes-là, mais pourquoi une curielle? Plus de 11 taxes à la fois, on exige qu'on puisse payer ces taxes-là. Eh ben, mais écoutez, soit ils sont allés chercher l'argent, ils vont se vanter qu'ils ont augmenté les recettes. C'est bien bon. L'état de siège, en fait, l'action même des autorités militaires a besoin de moyens pour imposer l'autorité de l'État et réinstaurer la paix. Mais moi, je pense que, en tout cas, comme quelqu'un a dit ici, l'état de siège a accusé beaucoup de faiblesses. Et il faut ce diagnostic-là qui sera peut-être cette table ronde.
Aux yeux, on n'a même pas besoin de la table ronde. Ouais, il faut quand même qu'on les sache, qu'on dise que voilà, ça a échoué. Et réqualifions les choses autres.
Il faut avouer, comme l'a dit M. Franck, que c'était une décision précipitée, sans planification. Autant que la gratuité de l'enseignement qui a connu aussi.
Voilà, Josué Moufoula, honorable député, élu des Goma. Nous allons nous permettre d'accueillir également une autre série des auditeurs. Pour les écouter quand même sur leur point de vue. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour Olivier.
Bonjour JR et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Alors vous avez suivi vos prédécesseurs ainsi que notre invité. Qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Oui, c'est vrai que ce qui retient mon attention de façon particulière, c'est le fait d'abord que le constat d'échec est fait depuis longtemps. Le constat d'échec est fait depuis longtemps, mais c'est anormal de voir que nous sommes là en train de s'entêter à aller dans la même direction alors que tout le monde...
Oui, mais ce constat d'échec est fait par qui?
Non, le constat d'échec est fait par tous les partenaires, tous les observateurs, tous les citoyens et les députés ont constaté, et c'est par un mécanisme, je dirais, miraculeux qu'ils continuent à prolonger parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients qu'il y a échec. Et les gens qui sont sur le terrain voient que les exactions se sont multipliées au lieu de diminuer. Et ça, c'est une chose. Alors, je vais vous dire une chose, c'est comme si nous sommes devenus malades. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Et non seulement nous sommes devenus inconscients de la situation que nous vivons, mais nous sommes même arrivés à faire des amitiés avec l'adresse. Et ça, c'est vraiment les signes du syndrome de Stockholm. Alors, ça, c'est une chose. Alors, il y a les choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est que aujourd'hui, si on se pose encore des questions... Ça signifie que, au fait, nous ne voyons pas ce qui nous arrive, ou bien nous ne voulons pas savoir, nous ne voulons pas voir la réalité. La situation est claire, il y a échec. Maintenant, nous devons aller vers les solutions, JR. Les solutions, moi, je peux proposer une chose, c'est qu'on revient à la case de départ, on remet les gouvernements.
Oui, mais ce n'est pas la même lecture qu'à un politicien normal, parce que le politicien estime que, finalement, il y a beaucoup d'avancées pendant cette période de l'instauration d'état de siège.
Non, JR, je crois que nous devons...
Mis à part quelques députés au sein des caucus parlementaires du Nord et de l'Étourie.
Non, nous ne devons pas être dupes, parce que la situation est claire, on n'avance pas, et tout le monde est conscient là-dessus. Alors maintenant, il y a ce qu'on est en train de dire ici tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ça, le fanatisme. Vous avez vu, la semaine passée, on a parlé des députés du Katanga qui décident d'aller directement pour encourager le président. Mais ça, c'est bien d'y aller. Mais c'est pour quel objectif? C'est ça le problème. C'est pour quel objectif? Quand on décide d'accompagner le président alors que la situation réelle, on devrait lui relater. Et c'est ça le manque, c'est ça qui manque.
Voilà. Merci beaucoup Kikwit. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé de Kikwit. On va prendre Bernard, qui est à Lubumbashi. Bernard, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour auditeur, au nom de l'arrêté de nous faire tuer.
Voilà, quelle est votre réaction?
JR, vraiment, je suis désolé par la qualité de nos députés, nos élus nationaux. Je crois que ce qui nous a poussé à aller dans l'état de siège, c'est l'échec des autorités civiles, des élus, les gouverneurs et autres, tout ça. Ce qui nous a poussé à aller vers l'état de siège. Mais si aujourd'hui, ils cherchent à nous rappeler encore à ceux qui avaient échoué pour que nous puissions nous retrouver dans l'état de siège, c'est vraiment déplorable. Je crois que nous devons penser autrement que recourir à ceux qui a déjà échoué.
Oui, pour mais oui, Bernard, si vous le permettez, les gouverneurs qui étaient en place ont été, ils étaient élus après 2018, après les élections de 2018. Mais la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo date d'il y a quelques temps, il y a bien avant que ces gouverneurs en arrivent.
C'est pourquoi, c'est pourquoi nous...
Donc les approches utilisées par l'ancien régime et parfois les mêmes approches qui sont utilisées aujourd'hui, ont accusé des limites.
Et nous proposons que nous puissions recourir à l'ancien système de Mobutu. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de complicités entre les dirigeants autochtones et les élus autochtones.
Parce qu'ils font partie du problème.
À l'époque de Mobutu, on avait les non-originaires. Il n'y avait pas de complicité entre les habitants qui sont en train de commettre des dégâts et les autorités.
Alors, dans ces cas, l'hypothèse est nommée des commissaires généraux non originaires. Voilà, donc nommer des commissaires généraux non originaires pour gérer ne fût-ce que cette année et nous éviter des crises identitaires.
Si, si, et puis on regarde aussi dans l'armée. Il y a beaucoup de militaires, lors du brassage et mixage, on avait laissé des militaires autochtones des territoires qui sont en train de diriger les opérations là-bas.
Alors, et ça pose problème.
Placer tous ces gens-là, amener d'autres qui peuvent amener une autre vision par rapport à ceux qui y sont.
Merci, merci beaucoup.
Ça va nous aider à avancer.
Voilà, merci beaucoup. Pour vous estimer qu'on peut réqualifier, on peut penser à ces plans de sortie. Merci. Alors, ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa.
Oui, bonjour, JR. Je salue aussi notre invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau d'échange?
Merci, JR, pour la parole. Je crois que, d'abord, je suis très touché et même révolté par, choqué par les propos de notre invité. Notre invité, je l'encourage. Franchement, nous avons besoin de patriotes comme eux. Il ne doit pas être complaisant parce que cette nation mérite quand même des personnes qui, en fait, parlent pour la nation. C'est un député national. Alors, moi, mon problème est celui-ci. Comment expliquer le fait que, au niveau du Parlement, il y a une commission qui a produit un travail, commission de défense à laquelle appartient notre invité. Mais cette commission a produit un rapport. Ce rapport a été transmis à qui de droit? Ce sont des élus du peuple. Alors le chef de l'État, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il attend pour prendre ses responsabilités? Parce que ce n'est le magistrat suprême. Il ne doit pas se contenter des gens qui viennent le voir comme ça.
Oui, il a promis une table ronde qui prendra en compte tous les députés, toutes les institutions presque, et y compris la société civile.
Ce sont des réunions de trop.
Vous estimez que ce sont des réunions de trop?
Moi, de trop, parce que moi, j'ai confiance à nos élus du peuple, surtout notre invité. Quand il intervient, vous sentez qu'il a les soucis pour ce pays. Alors, pourquoi encore des réunions? Alors, tout le monde sait que ceux qui siègent au Parlement là-bas représentent le peuple congolais. Alors, c'est une commission. Une commission qui siège là-bas.
Alors cette réunion qu'on attend au mois de novembre a été promise depuis le mois de mai. Donc je crois que cette fois-ci, ce sera la dernière pour qu'on arrive réellement à lever les options. C'est le souhait de notre invité.
Non. Moi, je crois que, écoutez, s'ils veulent contrer avec des réunions, ça, c'est leur problème. Mais moi, je pense que tout le monde sait. Et si je voudrais un peu parler du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Chaque fois, parce que j'ai suivi notre invité qui a dit que, vous l'avez dit aussi, les députés et certains sénateurs, certains députés sont accusés de complicité dans tout ce qui se passe à l'Est. Mais lorsque un président de l'Assemblée nationale parle de cette façon-là, on suppose qu'il
connaît
tous ces députés-là. Il y a des preuves. Mais pourquoi la justice ne peut-il pas directement se saisir de ces propos pour interpeller ces gens-là, pour qu'on fasse même des audiences publiques, comme c'est le cas avec les procès de 100 jours. Mais pourquoi ça traîne? On accuse, mais on ne voit pas cette volonté-là de pouvoir aller jusqu'au bout. Moi, je pense que tout le monde sait, la guerre à l'Est, c'est une affaire de notre force armée. Il faut qu'on organise l'armée. On doit organiser l'armée et puis faire... Pourquoi nommer des commissaires généraux? Mais nous avons ces gouverneurs qui étaient là. Ils ont été élus. Qu'on leur donne le temps, s'il faut lever cet état de siège, qu'on leur donne le temps de terminer leur mandat.
Merci beaucoup. Alors, on ne sera pas allé plus loin. On va écouter le dernier auditeur. Et puis, on reviendra à notre invité pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur cette question. Glody, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole, Glody.
Oui, merci pour la parole accordée. J'ai juste des questions que je devais poser à l'invité. Monsieur l'invité, je pense que vous êtes élu national, vous êtes là pour donner des solutions afin que les pays puissent développer. Si vous pouvez seulement nous éclaircir, est-ce que le 13 de siège, il est constitutionnel? Ça, c'est d'abord la première question. Et la deuxième question, par rapport au gouverneur qui était élu par des députés provinciaux, est-ce qu'ils sont toujours en pouvoir? en fonction, autrement dit, ou bien quand le président a nommé l'état de siège, automatiquement ils ont perdu leur pouvoir, parce que il est écrit dans la Constitution d'autre part que le mandat est 5 ans renouvelable, ça dépend de la position à laquelle vous postulez. Et ils étaient votés pendant 5 ans. Bon, maintenant, nous arrivons à un système qui est, il y a l'état de siège. Est-ce qu'ils ont perdu automatiquement leur mandat, ou bien après l'état de siège, ils vont continuer leur mandat? Si vous pouvez nous éclaircir dans cette question.
Merci beaucoup. Voilà, on commence par là parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe. Monsieur le député, Josué Moufoula, élu des Goma, comme l'ont dit certains, bon, qui ont apprécié d'ailleurs votre courage. Et nous rappelons que vous ne faites pas partie des lignes sacrées.
Non, je ne suis pas des lignes. Je suis un jeune républicain. J'ai à interpeller même de ministres d'IFCC alors que j'étais du IFCC.
Voilà, vous avez la parole.
Donc oui, en fait, il faut confirmer à notre frère que l'état de siège est une disposition de la Constitution, je crois, si pas son article 85, je crois. Et donc, pour le sort des autorités qui sont qu'on a remplacées, je crois que on dit qu'ils sont.
Ça veut dire qu'ils continuent à être payés, ils travaillent pas, bon, ils continuent à être payés.
Oui, les députés provinciaux,
ils sont payés, les gouverneurs, ils obtiennent, les émoluments.
Bon, pas peut-être la totalité, mais ils obtiennent quand même quelque chose. Ils obtiennent quelque chose, et même le gouverneur civil, Carly, je crois qu'il obtient aussi quelque chose. Il y a monsieur le général Mangoyo de Kinshasa qui a parlé de l'organisation de l'armée. Je veux y revenir pour la lors de la conclusion. Mais il y a encore cette question là de député accusé des complicités qu'il a soulevé, tout comme monsieur Olivier aussi de Kikwit, qui disait finalement que le constat de l'échec de l'état de siège était déjà fait par tout le monde, mais les gens ne veulent pas en parler. Et bien justement, c'est parce que il y a musellement de députés. Quand déjà on doit accuser des députés d'être complices des groupes armés, moi je pense que c'est aussi une façon de faire taire certains députés qui peuvent donner une opinion contraire par rapport à ce que. Et moi, je crois que Monsieur JR, effectivement, vous sentez même la qualité des interventions des auditeurs. Donc, il faut pas que le gens que nous pensions qu'il n'y a que ceux qui sont aux commandes et qui réfléchissent mieux que tout le monde. Et d'où
c'est pourquoi nous disons c'est un débat citoyen parce que la politique intéresse tout le monde. Ouais. Raison pour laquelle Radio Capi depuis plus de dizaines d'années avait pensé à cette tribune.
D'où cette quand même décision de la table ronde qui pourra associer à la société civile, c'est à mon avis en tout cas, ce n'est pas mal. Vous savez, les questions de la sécurité aussi, parfois il faut pas aller dans la précipitation. Donc c'est parfois des situations délicates et complexes qui nécessitent quand même des réflexions très très profondes, très sérieuses. Mais il faut le dire, je pense aussi que en tout cas lorsque monsieur Bernard de Lubumbashi il dit qu'il est déçu par la qualité des députés et tout ça, les autorités civiles dans le province sous état de siège avaient échoué et qu'il faudrait, on ne peut pas revenir sur l'état de siège a été une
des non-originaires, ça pourrait résoudre quand même le problème.
Les non-originaires, c'était ma proposition. Je ne sais pas s'il a toujours suivi.
Il y a d'autres analystes qui ont toujours dit que le Mobutu a laissé quand même beaucoup de tensions latentes.
Si les gens avaient suivi le débat sur la loi électorale à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a interdit à tous les députés FCC de ne pas participer, moi, en tout cas, je m'étais décidé d'entrer parce qu'il y a de nos collègues qui entraient, qui signaient, qui repartaient, mais qui ne voulaient pas participer. Moi, j'ai dit, acter sa présence à la plénière, c'est déjà donner un quitus, donner le quorum au président Bosso. Mais pourquoi signer et partir? Moi, je dis, je reste et je participe au débat. D'abord parce que c'était une loi qu'on a dénommée la loi Lokondo. Lokondo reste un modèle pour nous autres jeunes générations en politique. Lokondo, c'est une figure de proue du Parlement. Et donc, ça, c'était la première raison. Et donc, lors de ces débats-là, lorsque j'ai pris la parole, j'ai proposé cela. Moi, j'ai dit, on peut procéder au vote de gouverneur par les assemblées provinciales, mais après, une fois élu, on peut donner le pouvoir au chef de l'État de le permuter. Vous êtes élu à Lubumbashi, on vous envoie à Goma.
Voilà, on ne saura pas malheureusement aller plus loin. Josué Mofula, député élu de Goma, on s'arrête par là. Mais nous rappelons que vous avez initié une question écrite.
C'est une interpellation du vice-premier ministre à cause des tracasseries
sur le territoire national.
Je suis menacé, mais je n'abandonnerai pas.
On va y revenir. Inch'Allah, le Seigneur nous donnera le temps de nous retrouver encore. Merci à tous d'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Merci à vous d'être venu nous visiter, monsieur le député.
On aurait dû parler des solutions.
Alors que cela ne tienne, on va envoyer ça
après. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous revoir.
À très bientôt.
Merci.